Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Troisième partie, livre 21e. Invasion de la Russie, Vilna, le sénateur polonais Wybicki, le parlementaire russe Balachev, Smolensk, Murat, le fils de Platov. 2. Retraite des Russes, le Boristen, obsession de Bonaparte. Kutuzov succède à Barclay dans le commandement de l'armée russe. Bataille de la Moscova ou de Borodino. Bulletin. Aspect du champ de bataille. 3. Extrait du 18e bulletin de la Grande Armée. 4. Marche en avant des Français. Rostopchine. Bonaparte au Mont du Salut. Vue de Moscou. Entrée de Napoléon au Kremlin. Incendie de Moscou. Bonaparte gagne avec peine Petrovski. Écriteau de Rostopchine. Séjour sur les ruines de Moscou. Occupation de Bonaparte. 5. Retraite. 6. Smolensk, suite de la retraite. 7. Passage de la Bérézina. 8. Jugement sur la campagne de Russie. Dernier bulletin de la Grande Armée. Retour de Bonaparte à Paris. Harangue du Sénat. Chapitre 1. Invasion de la Russie, Vilna, le sénateur polonais Wybicki, le parlementaire russe Balachev, Smolensk, Murat, le fils de Platov. Lorsque Bonaparte franchit le Niémen, 85 500 000 âmes reconnaissaient sa domination ou celle de sa famille. La moitié de la population de la chrétienté lui obéissait. Ses ordres étaient exécutés dans un espace qui comprenait 19 degrés de latitude et 30 degrés de longitude. Jamais expédition plus gigantesque ne s'était vue, ne se reverra. Le 22 juin, à son quartier général de Wilkowiski, Napoléon proclame la guerre. Soldats, la seconde guerre de la Pologne est commencée. La première s'est terminée à Tilsit. La Russie est entraînée par la fatalité. Ses destins doivent s'accomplir. Moscou répond à cette voix jeune encore par la bouche de son métropolitain, âgé de 110 ans. La ville de Moscou reçoit Alexandre, son Christ, comme une mère dans les bras de ses fils zélés, et chante « Hosanna, béni soit celui qui arrive ». Bonaparte s'adressait au destin, Alexandre à la Providence. Le 23 juin 1812, Bonaparte reconnut de nuit le Niémen. Il ordonna d'y jeter 3 ponts. À la chute du jour suivant, quelques sapeurs passent le fleuve dans un bateau. Ils ne trouvent personne sur l'autre rive. Un officier de Cosaques, commandant une patrouille, vient à eux et leur demande qui ils sont. « Français. Pourquoi venez-vous en Russie ?»« Pour vous faire la guerre. » Le Cosaque disparaît dans les bois. 3 sapeurs tirent sur la forêt. On ne leur répond point. Silence universel. Bonaparte était demeuré toute une journée, étendu sans force et pourtant sans repos. Il sentait quelque chose se retirer de lui. Les colonnes de nos armées s'avancèrent à travers la forêt de Pilviski à la faveur de l'obscurité, comme les Huns conduits par une biche dans les palus méotides. on ne voyait pas le Niémen. Pour le reconnaître, il en fallut toucher les bords. Au lever du jour, au lieu des bataillons moscovites ou des populations lituaniennes, s'avançant au-devant de leurs libérateurs, on ne vit que des sables nus et des forêts désertes. À 300 pas du fleuve, sur la hauteur la plus élevée, on apercevait la tente de l'empereur. Autour d'elle, toutes les collines, leurs pentes, les vallées, étaient couvertes d'hommes et de chevaux. Entre parenthèses, Ségur. L'ensemble des forces obéissant à Napoléon se montait à 680 300 fantassins, à 176 850 chevaux. Dans la guerre de la succession, Louis XIV avait sous les armes 600 000 hommes, tous français. L'infanterie active, sous les ordres immédiats de Bonaparte, était répartie en 10 corps. Ces corps se composaient de 20 000 Italiens, de 80 000 hommes de la Confédération du Rhin, de 30 000 Polonais, de 30 000 Autrichiens, de 20 000 Prussiens et de 270 000 Français. L'armée franchit le Niémen. Bonaparte passe lui-même le pont fatal et pose le pied sur la terre russe. Il s'arrête et voit défiler ses soldats. Puis il échappe à la vue et galope au hasard dans une forêt, comme appelé au conseil des esprits sur la Bruyère. Il revient, il écoute, l'armée écoutait. On se figure entendre gronder le canon lointain. On était plein de joie. Ce n'était qu'un orage. Les combats reculaient. Bonaparte s'abrita dans un couvent abandonné. Double asile de paix. On a raconté que le cheval de Napoléon s'abattit et qu'on entendit murmurer « C'est un mauvais présage, un Romain reculerait ». Vieille histoire de Scipion, de Guillaume le Bâtard, d'Édouard III et de Malesherbes partant pour le tribunal révolutionnaire. 3 jours furent employés au passage des troupes. Elles prenaient rang et s'avançaient. Napoléon s'empressait sur la route. Le temps lui criait « Marche, marche !» comme parle Bossuet. À Vilna, Bonaparte reçut le sénateur Wybicki de la Diète de Varsovie. Un parlementaire russe, Balachev, se présente à son tour. Il déclare qu'on pouvait encore traiter, qu'Alexandre n'était point l'agresseur, que les Français se trouvaient en Russie sans aucune déclaration de guerre. Napoléon répond qu'Alexandre n'est qu'un général à la parade, qu'Alexandre n'a que 3 généraux, Kutuzov, dont lui Bonaparte ne se soucie pas parce qu'il est russe, Bennigsen, déjà trop vieux il y a 6 ans et maintenant en enfance, Barclay, général de retraite. Le duc de Vicence, s'étant cru insulté par Bonaparte dans la conversation, l'interrompit d'une voix irritée. « Je suis bon français, je l'ai prouvé. Je le prouverai encore, en répétant que cette guerre est impolitique, dangereuse, qu'elle perdra l'armée, la France et l'empereur. » Bonaparte avait dit à l'envoyé russe « Croyez-vous que je me soucie de vos jacobins de Polonais ?» Madame de Staël rapporte ce dernier propos. Ses hautes liaisons la tenaient bien informée. Elle affirme qu'il existait une lettre écrite à M. de Romanzoff par un ministre de Bonaparte, lequel proposait de rayer des actes européens le nom de Pologne et de Polonais. Preuve surabondante du dégoût de Napoléon pour ses braves suppliants. Bonaparte s'enquit devant Balachev du nombre des églises de Moscou. Sur la réponse, il s'écrie « Comment tant d'églises à une époque où l'on n'est plus chrétien ?»« Pardon, sire, reprit le moscovite, les Russes et les Espagnols le sont encore. » Balachev, renvoyé avec des propositions inadmissibles, la dernière lueur de paix s'évanouit. Les bulletins disaient « Le voilà donc, cet empire de Russie, de loin si redoutable. C'est un désert. Il faut plus de temps à Alexandre pour rassembler ses recrues qu'à Napoléon pour arriver à Moscou. » Bonaparte, parvenu à Vitebsk, eut un moment l'idée de s'y arrêter. Rentrant à son quartier général, après avoir vu Barclay se retirer encore, il jeta son épée sur des cartes et s'écria « Je m'arrête ici. Ma campagne de 1812 est finie, celle de 1813 fera le reste. » Heureux s'il eût tenu à cette résolution que tous ses généraux lui conseillaient. Il s'était flatté de recevoir de nouvelles propositions de paix. Ne voyant rien venir, il s'ennuya. Il n'était qu'à 20 journées de Moscou. « Moscou, la ville sainte » répétait-il. Son regard devenait étincelant, son air farouche. L'ordre de partir est donné. On lui fait des observations, il les dédaigne. Daru, interrogé, lui répond qu'il ne conçoit ni le but ni la nécessité d'une pareille guerre. L'empereur réplique « Me prend-on pour un insensé? Pense-t-on que je fais la guerre par goût ? » Lui avait-on pas entendu dire à lui, empereur, que la guerre d'Espagne et celle de Russie étaient deux chancres qui rongeaient la France? Mais pour faire la paix, il fallait être deux, et l'on ne recevait pas une seule lettre d'Alexandre. Et ces chancres, de qui venaient-ils? Ces inconséquences passent inaperçues et se changent, même au besoin, en preuve de la candide sincérité de Napoléon. Bonaparte se croirait dégradé s'il s'arrêtait dans une faute qu'il reconnaît. Ses soldats se plaignent de ne plus le voir qu'au moment des combats, toujours pour les faire mourir, jamais pour les faire vivre. Il est sourd à ses plaintes. La nouvelle de la paix entre les Russes et les Turcs le frappe et ne le retient pas. Il se précipite à Smolensk. Les proclamations des Russes disaient « Il vient, Napoléon, la trahison dans le cœur et la loyauté sur les lèvres. Il vient nous enchaîner avec ses légions d'esclaves. Portons la croix dans nos cœurs et le fer dans nos mains. Arrachons les dents à ce lion. Renversons le tyran qui renverse la terre. » Sur les hauteurs de Smolensk, Napoléon retrouve l'armée russe, composée de 120 000 hommes. « Je les tiens » s'écrie-t-il. Le 17, au point du jour, Béliard jette une bande de Cosaques dans le Dniepr. Le rideau replié, on aperçoit l'armée ennemie sur la route de Moscou. Elle se retirait. Le rêve de Bonaparte lui échappe encore. Murat, qui avait trop contribué à la vaine poursuite, dans son désespoir, voulait mourir. Il refusait de quitter une de nos batteries écrasées par le feu de la citadelle de Smolensk, non encore évacuée. « Retirez-vous tous, laissez-moi seul ici » s'écriait-il. Une attaque effroyable avait lieu contre cette citadelle. Rangée sur des hauteurs qui s'élèvent en amphithéâtre, notre armée contemplait le combat au-dessous. Quand elle vit les assaillants s'élancer à travers le feu et la mitraille, elle battit des mains, comme elle avait fait à l'aspect des ruines de Thèbes. Pendant la nuit, un incendie attire les regards. Un sous-officier de Davout escalade les murs, parvient dans la citadelle au milieu de la fumée. Le son de quelques voix lointaines arrive à son oreille. Le pistolet à la main, il se dirige de ce côté, et à son grand étonnement, il tombe dans une patrouille d'amis. Les Russes avaient abandonné la ville et les Polonais de Poniatowski l'avaient occupée. Murat, par son costume extraordinaire, par le caractère de sa vaillance qui ressemblait à la leur, excitait l'enthousiasme des Cosaques. Un jour qu'ils faisaient sur leur bande une charge furieuse, ils s'emportent contre elle, les gourmandent, et leur commande. Les Cosaques ne comprennent pas, mais ils devinent, tournent bride et obéissent à l'ordre du général ennemi. Lorsque nous vîmes à Paris Letman Platoff, nous ignorions ses afflictions paternelles. En 1812, il avait un fils beau comme l'Orient. Ce fils montait un superbe cheval blanc de l'Ukraine. Le guerrier de 17 ans combattait avec l'intrépidité de l'âge qui fleurit et espère. Un Uhlan polonais le tua. Étendu sur une peau d'ours, les Cosaques vinrent respectueusement baiser sa main. Il prononce des prières funèbres, l'enterre sur une butte couverte de pin. Ensuite, tenant en main leurs chevaux, ils défilent autour de la tombe, la pointe de leur lance renversée contre terre. On croyait voir les funérailles décrites par l'historien des Goths, ou les cohortes prétoriennes renversant leurs faisceaux devant les cendres de Germanicus. Versi fasces. Le vent fait tomber les flocons de neige que le printemps du Nord porte dans ses cheveux. Edda de Soemonde. Chapitre 2. Retraite des Russes, le Boristen, obsession de Bonaparte, Kutuzov succède à Barclay dans le commandement de l'armée russe, bataille de la Moscova ou de Borodino, bulletin, aspect du champ de bataille. Bonaparte écrivit de Smolensk en France qu'il était maître des salines russes et que son ministre du Trésor pouvait compter sur 80 millions de plus. La Russie fuyait vers le pôle. Les seigneurs, désertant leurs châteaux de bois, s'en allaient avec leurs familles, leurs serfs et leurs troupeaux. Le Dniepr, ou l'ancien Boristen, dont les eaux avaient jadis été déclarées saintes par Vladimir, était franchi. Ce fleuve avait envoyé aux peuples civilisés des invasions de barbares. Il subissait maintenant les invasions des peuples civilisés. Sauvage déguisé sous un nom grec, il ne se rappelait même plus les premières migrations des Slaves. Il continuait de couler inconnu, portant dans ses barques, parmi ses forêts, au lieu des enfants d'Odin, des châles et des parfums aux femmes de Saint-Pétersbourg et de Varsovie. Son histoire, pour le monde, ne commence qu'à l'Orient des montagnes où sont les autels d'Alexandre. De Smolensk, on pouvait également conduire une armée à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Smolensk aurait dû avertir le vainqueur de s'arrêter. Il en eut un moment l'envie. L'empereur, dit M. Fin, découragé, parla du projet de s'arrêter à Smolensk. Aux ambulances, on commençait déjà à manquer de tout. Le général Courgaud raconte que le général Lariboisière fut obligé de délivrer les toupes de ses canons pour panser les blessés. Mais Bonaparte était entraîné. Il se délectait à contempler aux deux bouts de l'Europe les deux aurores qui éclairaient ses armées dans des plaines brûlantes et sur des plateaux glacés. Roland, dans son cercle étroit de chevalerie, courait après Angélique. Les conquérants de première race poursuivent une plus haute souveraine. Point de repos pour eux qu'ils n'aient pressé dans leurs bras cette divinité couronnée de tours, épouse du temps, fille du ciel et mère des dieux. Possédé de sa propre existence, Bonaparte avait tout réduit à sa personne. Napoléon s'était emparé de Napoléon. Il n'y avait plus que lui en lui. Jusqu'alors, il n'avait exploré que des lieux célèbres. Maintenant, il parcourait une voie sans nom, le long de laquelle Pierre avait à peine ébauché les villes futures d'un empire qui ne comptait pas un siècle. Si les exemples instruisaient, Bonaparte aurait pu s'inquiéter au souvenir de Charles XII qui traversa Smolensk en cherchant Moscou. À Kolodrina, il y eut une affaire meurtrière. On avait enterré à la hâte les cadavres des Français, de sorte que Napoléon ne put juger de la grandeur de sa perte. À Dorogobouj, rencontre d'un Russe avec une barbe éblouissante de blancheur, descendant sur sa poitrine. Trop vieux pour suivre sa famille, resté seul à son foyer, il avait vu les prodiges de la fin du règne de Pierre le Grand. Il assistait, dans une silencieuse indignation, à la dévastation de son pays. Une suite de batailles présentées et refusées amenèrent les Français sur le champ de la Moscova. À chaque bivouac, l'empereur allait discutant avec ses généraux, écoutant leurs contentions, tandis qu'il était assis sur des branches de sapin ou se jouait avec quelques boulets russes qu'il poussait du pied. Barclay, pasteur de Livonie, et puis général, était l'auteur de ce système de retraite qui laissait à l'automne le temps de le rejoindre. Une intrigue de cour le renversa. Le vieux Kutouzov, battu à Austerlitz parce qu'on n'avait pas suivi son opinion, laquelle était de refuser le combat jusqu'à l'arrivée du prince Charles, remplaça Barclay. Les Russes voyaient dans Kutouzov un général de leur nation, l'élève de Souvarov, le vainqueur du grand vizir en 1811 et l'auteur de la paix avec la porte, alors si nécessaire à la Russie. Sur ces entrefaites, un officier moscovite se présente aux avant-postes de Davout. Il n'était que de propositions vagues. Sa mission réelle semblait être de regarder et d'examiner. On lui montra tout. La curiosité française, insouciante et sans frayeur, lui demanda ce qu'on trouverait de Viasma à Moscou. « Poultava, » répondit-il. Arrivé sur les hauteurs de Borodino, Bonaparte voit enfin l'armée russe arrêtée et formidablement retranchée. Elle comptait 120 000 hommes et 600 pièces de canon. Du côté des Français, égale force. La gauche des Russes examinée, le maréchal Davout propose à Napoléon de tourner l'ennemi. « Cela me ferait perdre trop de temps, » répond l'empereur. Davout insiste. Il s'engage à avoir accompli sa manœuvre avant 6 heures du matin. Napoléon l'interrompt brusquement. « Ah, vous êtes toujours pour tourner l'ennemi !» On avait remarqué un grand mouvement dans le camp moscovite. Les troupes étaient sous les armes. Kutouzov, entouré des popes et des archimandrites, précédé des emblèmes de la religion et d'une image sacrée sauvée des ruines de Smolensk, parle à ses soldats du ciel et de la patrie. Il nomme Napoléon le despote universel. Au milieu de ces chants de guerre, de ces chœurs de triomphe mêlés à des cris de douleur, on entend aussi, dans le camp français, une voix chrétienne. Elle se distingue de toutes les autres. C'est l'hymne saint qui monte seul sous les voûtes du temple. Le soldat, dont la voix tranquille et pourtant émue, retentit la dernière, est l'aide de camp du maréchal qui commandait la cavalerie de la garde. Cet aide de camp s'est mêlé à tous les combats de la campagne de Russie. Il parle de Napoléon comme ses plus grands admirateurs. Mais il lui reconnaît des infirmités. Il redresse des récits menteurs et déclare que les fautes commises sont venues de l'orgueil du chef et de l'oubli de Dieu dans les capitaines. Dans le camp russe, dit le lieutenant-colonel de Baudus, on sanctifia cette vigile d'un jour qui devait être le dernier pour tant de braves. Le spectacle offert à mes yeux par la piété de l'ennemi, ainsi que les plaisanteries qu'il dicta à un trop grand nombre d'officiers placés dans nos rangs, me rappela que le plus grand de nos rois, Charlemagne, se disposa lui aussi à commencer la plus périlleuse de ses entreprises par des cérémonies religieuses. Ah, sans doute, parmi ces chrétiens égarés, il s'en trouva un grand nombre dont la bonne foi sanctifia les prières. Car si les Russes furent vaincus à la Moscova, notre entier anéantissement, dont ils ne peuvent se glorifier en aucune façon, puisqu'il fut l'œuvre manifeste de la Providence, vint prouver, quelques mois plus tard, que leur demande n'avait été que trop favorablement écoutée. Mais où était le czar? Il venait de dire modestement à Madame de Staël, fugitive, qu'il regrettait de n'être pas un grand général. Dans ce moment paraissait à nos bivouacs M. de Beausset, officier du palais. Sorti des bois, tranquille de Saint-Cloud, et suivant les traces horribles de notre armée, il arrivait la veille des funérailles à la Moscova. Il était chargé du portrait du roi de Rome, que Marie-Louise envoyait à l'empereur. M. Fin et M. de Ségur peignent les sentiments dont Bonaparte fut saisi à cette vue. Selon le général Gourgaud, Bonaparte s'écria, après avoir regardé le portrait, « Retirez-le, il voit de trop bonne heure un champ de bataille. » Le jour qui précéda l'orage fut extrêmement calme. Cette espèce de sagesse que l'on met, dit M. de Baudus, a préparé de si cruelles folies à quelque chose d'humiliant pour la raison humaine, quand on y pense de sang-froid à l'âge où je suis arrivé, car dans ma jeunesse, je trouvais cela bien beau. Vers le soir du 6, Bonaparte dicta cette proclamation. Elle ne fut connue de la plupart des soldats qu'après la victoire. « Soldats, voilà la bataille que vous avez tant désirée. Désormais, la victoire dépend de vous. Elle nous est nécessaire. Elle nous donnera l'abondance et un prompt retour dans la patrie. Conduisez-vous, comme à Austerlitz, à Friedland, à Vitebsk et à Smolensk, et que la postérité la plus reculée cite votre conduite dans cette journée. Que l'on dise de vous, il était à cette grande bataille, sous les murs de Moscou. » Bonaparte passa la nuit dans l'anxiété. Tantôt, il croyait que les ennemis se retiraient. Tantôt, il redoutait le dénuement de ses soldats et la lassitude de ses officiers. Il savait que l'on disait autour de lui, « Dans quel but nous a-t-on fait faire 800 lieues pour ne trouver que de l'eau marécageuse, la famine et des bivouacs sur des cendres ? » Chaque année la guerre s'aggrave. De nouvelles conquêtes forcent d'aller chercher de nouveaux ennemis. Bientôt l'Europe ne lui suffira plus, il lui faudra l'Asie. Bonaparte, en effet, n'avait pas vu avec indifférence les cours d'eau qui se jettent dans le Volga. Né pour Babylone, il l'avait déjà tenté par une autre route. Arrêté à Jaffa, à l'entrée occidentale de l'Asie, arrêté à Moscou, à la porte septentrionale de cette même Asie, il vint mourir dans les mers qui bordent cette partie du monde d'où se levèrent l'homme et le soleil. Napoléon, au milieu de la nuit, fit appeler un de ses aides de camp. Celui-ci le trouva, la tête appuyée dans ses deux mains. « Qu'est-ce que la guerre ? » disait-il. « Un métier de barbare, où tout l'art consiste à être le plus fort sur un point donné. » Il se plaint de l'inconstance de la fortune. Il envoie examiner la position de l'ennemi. On lui rapporte que les feux brillent du même éclat et en égal nombre. Il se tranquillise. À 5 heures du matin, Ney lui envoie demander l'ordre d'attaque. Bonaparte sort et s'écrie « Allons ouvrir les portes de Moscou !» Le jour paraît. Napoléon, montrant l'Orient qui commençait à rougir, « Voilà le soleil d'Austerlitz !» s'écria-t-il. Chapitre 3. Extrait du 18e bulletin de la Grande Armée. Mojaïsk, 12 septembre 1812. Le 6, à 2 heures du matin, l'empereur parcourut les avant-postes ennemis. On passa la journée à se reconnaître. L'ennemi avait une position très resserrée. Cette position parut belle et forte. Il était facile de manœuvrer et d'obliger l'ennemi à l'évacuer, mais cela aurait remis la partie. Le 7, à 6 heures du matin, le général Comte Sorbier, qui avait armé la batterie droite avec l'artillerie de la réserve de la garde, commença le feu. À 6h30, le général Compan est blessé. À 7h, le prince d'Eckmühl a son cheval tué. À 7h, le maréchal duc d'Elchingen se remet en mouvement, et sous la protection de 60 pièces de canon que le général Fouché avait placées la veille contre le centre de l'ennemi, se porte sur le centre. 1000 pièces de canon vomissent de part et d'autre la mort. À 8 heures, les positions de l'ennemi sont enlevées, ses redoutes prises, et notre artillerie couronne ses mamelons. Il restait à l'ennemi ses redoutes de droite. Le général comte Morand y marche et les enlève. Mais à 9 heures du matin, attaqué de tous côtés, il ne peut s'y maintenir. L'ennemi, encouragé par ce succès, fit avancer sa réserve et ses dernières troupes pour tenter encore la fortune. La garde impériale russe en fait partie. Il attaque notre centre sur lequel avait pivoté notre droite. On craint pendant un moment qu'il n'enlève le village brûlé. La division Friant s'y porte. 80 pièces de canon françaises arrêtent d'abord et écrasent ensuite les colonnes ennemies, qui se tiennent pendant 2 heures serrées sous la mitraille, n'osant pas avancer, ne voulant pas reculer et renonçant à l'espoir de la victoire. Le roi de Naples décide leur incertitude. Il fait charger le 4e corps de cavalerie qui pénètre dans les brèches que la mitraille de nos canons a faites dans les masses serrées des Russes et les escadrons de leurs cuirassiers. Ils se débandent de tous côtés. Il est 2 heures après-midi. Toute espérance abandonne l'ennemi. La bataille est finie, la canonnade continue encore. Il se bat pour sa retraite et pour son salut, mais non pour la victoire. Notre perte totale peut être évaluée à 10 000 hommes, celle de l'ennemi à 40 ou 50 000. Jamais on n'a vu pareil champ de bataille. Sur 6 cadavres, il y en avait 1 Français et 5 Russes. 40 généraux russes ont été tués, blessés ou pris. Le général Bagration a été blessé. Nous avons perdu le général de division comte Montbrun, tué d'un coup de canon. Le général comte Caulaincourt, qui avait été envoyé pour le remplacer, tué d'un même coup 1 heure après. Les généraux de brigade, Compère, Plozonne, Marion, Huard, ont été tués. 7 ou 8 généraux ont été blessés, la plupart légèrement. Le prince d'Eckmühl n'a eu aucun mal. Les troupes françaises se sont couvertes de gloire et ont montré leur grande supériorité sur les troupes russes. Telle est, en peu de mots, l'esquisse de la bataille de la Moscova, donnée à 2 lieues en arrière de Mojaïsk et à 25 lieues de Moscou. L'empereur n'a jamais été exposé. La garde, ni à pied, ni à cheval, n'a pas donné et n'a pas perdu un seul homme. La victoire n'a jamais été incertaine. Si l'ennemi, forcé dans ses positions, n'avait pas voulu les reprendre, notre perte aurait été plus forte que la sienne. Mais il a détruit son armée en la tenant depuis 8 heures jusqu'à 2 sous le feu de nos batteries et en s'opiniâtrant à reprendre ce qu'il avait perdu. C'est la cause de son immense perte. Ce bulletin, froid et rempli de réticence, est loin de donner une idée de la bataille de la Moscova, et surtout des affreux massacres à la grande redoute. 80 000 hommes furent mis hors de combat. 30 000 d'entre eux appartenaient à la France. Auguste de la Roche-Jacquelin eut le visage fendu d'un coup de sabre et demeura prisonnier des moscovites. Il rappelait d'autres combats et un autre drapeau. Bonaparte, passant en revue le 61e régiment presque détruit, dit au colonel « Colonel, qu'avez-vous fait d'un de vos bataillons ?»« Sire, il est dans la redoute. » Les Russes ont toujours soutenu et soutiennent encore avoir gagné la bataille. Ils vont élever une colonne triomphale funèbre sur les hauteurs de Borodino. Le récit de M. de Ségur va suppléer à ce qui manque au bulletin de Bonaparte. « L'empereur parcourut, dit-il, le champ de bataille. Jamais aucun ne fut d'un si horrible aspect. Tout y concourait, un ciel obscur, une pluie froide, un vent violent, des habitations en cendres, une plaine bouleversée, couverte de ruines et de débris. À l'horizon, la triste et sombre verdure des arbres du nord. Partout, des soldats errants parmi des cadavres et cherchant des subsistances jusque dans les sacs de leurs compagnons morts. D'horribles blessures, car les balles russes sont plus grosses que les nôtres. Des bivouacs silencieux, plus de chants, point de récits, une morne taciturnité. On voyait autour des aigles le reste des officiers et sous-officiers, et quelques soldats, à peine ce qu'il en fallait pour garder le drapeau. Leurs vêtements étaient déchirés par l'acharnement du combat, noircis de poudre, souillés de sang. Et pourtant, au milieu de ces lambeaux, de cette misère, de ce désastre, un air fier et même, à l'aspect de l'empereur, quelques cris de triomphe, mais rares et excités. Car dans cette armée, capable à la fois d'analyse et d'enthousiasme, chacun jugeait de la position de tous. L'empereur ne put évaluer sa victoire que par les morts. La terre était tellement jonchée de Français étendus sur les redoutes qu'elle paraissait leur appartenir plus qu'à ceux qui restaient debout. Il semblait y avoir là plus de vainqueurs tués que de vainqueurs vivants. Dans cette foule de cadavres sur lesquels il fallait marcher pour suivre Napoléon, le pied d'un cheval rencontra un blessé et lui arracha un dernier signe de vie ou de douleur. L'empereur, jusque-là muet comme sa victoire, et que l'aspect de tant de victimes oppressait, éclata. Il se soulagea par des cris d'indignation et par une multitude de soins qu'il fit prodiguer à ce malheureux. Puis il dispersa les officiers qui le suivaient pour qu'ils secourussent ceux qu'on entendait crier de toutes parts. On en trouvait surtout dans le fond des ravines, où la plupart des nôtres avaient été précipités, et où plusieurs s'étaient traînés pour être plus à l'abri de l'ennemi et de l'ouragan. Les uns prononçaient en gémissant le nom de leur patrie ou de leur mère, c'étaient les plus jeunes. Les plus anciens attendaient la mort d'un air ou impassible ou sardonique, sans daigner implorer ni se plaindre. D'autres demandaient qu'on les tuât sur le champ. Mais on passait vite à côté de ces malheureux, qu'on n'avait ni l'inutile pitié de secourir, ni la pitié cruelle d'achever. Tel est le récit de M. de Ségur. Anathème aux victoires non remportées pour la défense de la patrie et qui ne servent qu'à la vanité d'un conquérant. La garde, composée de 25 000 hommes d'élite, ne fut point engagée à la Moscova. Bonaparte la refusa sous divers prétextes. Contre sa coutume, il se tint à l'écart du feu et ne pouvait suivre de ses propres yeux les manœuvres. Il s'asseyait ou se promenait près d'une redoute emportée la veille. Lorsqu'on venait lui apprendre la mort de quelques-uns de ses généraux, il faisait un geste de résignation. On regardait avec étonnement cette impassibilité. Ney s'écriait « Que fait-il derrière l'armée ? Là, il n'est apporté que des revers et non des succès. Puisqu'il ne fait plus la guerre par lui-même, qu'il n'est plus général, qu'il veut faire partout l'empereur, qu'il retourne aux Tuileries et nous laisse être généraux pour lui. » Murat avouait que dans cette grande journée, il n'avait plus reconnu le génie de Napoléon. Des admirateurs sans réserve ont attribué l'engourdissement de Napoléon à la complication des souffrances dont, assure-t-il, il était alors accablé. Ils affirment qu'à tout moment, il était obligé de descendre de cheval, et que souvent il restait immobile, le front appuyé contre des canons. Cela peut être. Un malaise passager pouvait contribuer dans ce moment à la prostration de son énergie. Mais si l'on remarque qu'il retrouva cette énergie dans la campagne de Saxe et dans sa fameuse campagne de France, il faudra chercher une autre cause de son inaction à Borodino. Comment ? Vous avouez dans votre bulletin qu'il était facile de manœuvrer et d'obliger l'ennemi à évacuer sa belle position, mais que cela aurait remis la partie. Et vous, qui avez assez d'activité d'esprit pour condamner à la mort tant de milliers de nos soldats, vous n'avez pas assez de force de corps pour ordonner à votre garde d'aller au moins à leur secours ? il n'y a d'autre explication à ceci que la nature même de l'homme. L'adversité arrivait. Sa première atteinte le glaça. La grandeur de Napoléon n'était pas de cette qualité qui appartient à l'infortune. La prospérité seule lui laissait ses facultés entières. Il n'était point fait pour le malheur.